Oui, alors aujourd'hui, comme c'est le jour de la fête des pères, vous devinez un peu le thème de ce message. Vous ne dites pas la fête des mères, parce que ça, on a déjà fait la prédication il y a quelque temps de cela. Au cours de cette prédication, nous avions vu bien sûr que la Bible, elle est claire que nous devons honorer nos parents. Hein, ce commandement d'honorer ton père et ta mère, on le retrouve, oui, dans l'Ancien Testament, hein, dans l'Exode, dans le Deutéronome. Le Seigneur Jésus également, hein, a réitéré ses commandements, et Paul aussi, dans Éphésiens chapitre 6, rappelle ses commandements d'honorer nos parents. Nous avions vu, hein, la dernière fois pour la fête des mères, au sujet de cet exemple de la femme vertueuse de l'exemple qu'elle est et qui nous encourage, encourage déjà les dames, mais même dans le témoignage, de nous encourager à faire les choses pour le Seigneur. Et donc, en ce jour où nous honorons les pères, j'aimerais justement encourager les pères dans notre assemblée, et puis bon, les futurs papas, mais également les autres membres de l'assemblée, parce que c'est aussi, ça devrait être aussi un sujet de prière, hein, pour chacun d'entre nous, de prier pour les parents, de prier pour les papas, dans leurs responsabilités, dans leurs charges, au sein de leur foyer. Et donc, oui, cette prédication, elle s'adresse, oui, avant tout, aux papas, mais nous voulons aussi encourager chacun par la parole. Et donc, si la parole nous demande d'honorer nos parents, c'est un commandement, et je sais que on va un peu parler de cela aussi, que parfois ça peut être difficile d'honorer les parents, d'honorer son père. Hein, ce n'est pas tout le monde qui a la bénédiction déjà d'avoir des parents chrétiens, mais d'avoir des parents chrétiens qui aiment le Seigneur et qui veulent vivre pour le Seigneur qui cherchent à enseigner à leurs enfants de vivre ainsi. Mais il y a aussi des foyers où ben, le papa est absent, hein, absent physiquement ou parfois même absent vis-à-vis de ses responsabilités au sein du foyer. Mais puisque la parole nous demande d'honorer nos parents, eh bien, il y a aussi des responsabilités, hein, évidentes pour les papas de faire tout en sorte que notre vie donne les raisons à nos enfants de pouvoir honorer, les papas. Et donc soyons dignes, hein, Père, soyons dignes d'être honorés, et cela en appliquant notre vie sur le modèle que l'on voit dans les Écritures, en s'appuyant sur la parole de Dieu. On a des enseignements très clairs et importants pour nous aider à cela, mais pour que nous soyons, hein, des pères honorables, il est évident tout d'abord qu'il nous faut suivre le modèle par excellence. Hein, le modèle par excellence, c'est Dieu lui-même. Hein, la qualité que l'on a d'être papa, c'est une qualité qui nous vient de Dieu lui-même. Hein, se présente dans sa parole comme étant le Père. Il se présente comme étant celui qui agit envers nous comme un Père, qui prend soin de nous, qui répond à nos besoins. Et donc, il est le Père parce que il est le Créateur de l'humanité. Mais également pour nous qui sommes chrétiens, il est également notre Père spirituel, notre Père céleste, hein, celui qui nous a arrachés de la perdition par son Fils Jésus-Christ. Nous voulons prendre exemple sur notre Père céleste parce que c'est un exemple qui est parfait, qui est sans faille, où il n'y a rien à redire. Moi, le modèle que je donne, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a beaucoup d'imperfections. Hein, je sais que lorsque j'étais adolescent, je me focalisais sur les imperfections de mon père, par exemple. Et je négligeais de voir en lui, eh bien, ses efforts pour modeler sa vie sur cet exemple que nous avons dans les Écritures de notre Père Céleste. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années pour bien corriger cela, pour voir que oui, malgré ses imperfections, malgré ses erreurs, malgré ses péchés aussi, il a déterminé dans sa vie de faire les choses selon le Seigneur. Si nous voulons suivre cet exemple, malgré notre imperfection, il faut déjà reconnaître notre imperfection, mais aussi rechercher cette perfection que nous voyons en Dieu. Le Seigneur n'a-t-il pas dit en Matthieu chapitre 5 et verset 48, par exemple, Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors c'est clair que si je regarde à la perfection de Dieu et que je regarde à mon imperfection, je ne sais même pas si on peut quantifier la distance qui existerait entre ces deux exemples-là. Parce que on peut pas comparer vraiment notre vie et notre rôle même de père à celui de Dieu parce que il est saint et il est parfait. Mais justement parce qu'il est parfait, il nous appelle à cette perfection. Que nous soyons parents, des pères, des mères, mais même n'importe quel chrétien, nous sommes appelés à suivre cette perfection-là. Et Dieu, il sait très bien que ben voilà, nous sommes imparfaits, nous demeurons imparfaits jusqu'à ce qu'il nous ait glorifiés dans nos corps, rendus une fois pour toutes à l'image de Jésus-Christ. Nous demeurons imparfaits. Mais ça ne doit pas nous empêcher, eh bien pour nous, de suivre cet exemple-là et de nous efforcer à être parfaits comme il est. Et donc l'exemple qu'il nous donne de cette paternité, le fait d'être père, il démontre dans sa parole ce qu'est un père et à travers les siècles de l'histoire de l'humanité, à travers ses rapports avec le peuple d'Israël, nous pouvons voir comment Dieu a agi en tant que père envers Israël, envers ses enfants, tous ceux qui se sont tournés vers lui. Et cette paternité de Dieu, alors c'est sûr, elle est différente. On a déjà établi que Dieu est parfait et que nous sommes imparfaits. Mais pour nous, nous savons que c'est par le Père que nous avons la vie. Et dans les Écritures, eh bien, le Père, il est présenté comme le Créateur, il est présenté comme la vie, il est présenté comme l'origine de notre existence physique, mais aussi de notre vie spirituelle. Parce que il est la vie, il nous a donné la vie, et en cela, il est notre Père. Et par sa grâce, et sa grâce seule en Jésus-Christ, bien ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption, et nous pouvons nous adresser à lui comme un enfant à son Père. Et c'est pour ça que lorsque nous prions Père Céleste, bon Père, nous adressons nos prières au Père au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, nous prions au Père, mais il se présente toujours dans sa parole comme cette figure paternelle. Pas simplement parce que il est la vie, qu'il a donné la vie, parce que si on limitait la qualité de Père à juste au fait de donner la vie, eh bien, nous serions vraiment en train de dénigrer la personne même de Dieu. Parce que Dieu, bien au-delà du fait de nous avoir donné la vie, de nous avoir créés, et ensuite, pour nous qui sommes chrétiens, de nous avoir fait, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations, il n'a pas fait que de nous donner la vie. Il est allé au-delà de cela. Il prend soin de nous. Il nous aime tellement que il déverse sa grâce pour nous jour après jour et il désire que nous soyons à son image, n'est-ce pas? Vous vous rappelez que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image. Ce n'est pas une image physique, mais une image spirituelle de la personne de Dieu. Et cet exemple que nous devons suivre, c'est ce que Dieu veut que nous développions dans notre vie. Il veut que cette image qu'il a créée en nous, lorsqu'il a créé l'humanité, que cette image puisse être évidente en chacun de nous. Alors on sait, le péché a complètement détérioré cela, n'est-ce pas? L'être humain a perverti par le péché, s'est corrompu par le péché, cette image que Dieu avait créée en l'être humain. Mais comme je l'ai dit, au moment du salut, Dieu fait de nous une nouvelle création, comme nous le lisons en 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17. On connaît très bien ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, nous, chrétiens, nous avons déjà cette bénédiction d'avoir Dieu pour Père de deux façons. Parce qu'il nous a créés en tant qu'être humain, mais il nous a recréés également spirituellement pour que nous puissions être ses enfants par adoption. Et donc, ce nouveau point de départ que Dieu a établi dans notre vie, eh bien, c'est l'occasion pour chacun, eh bien, de faire connaître au monde, eh bien, cette image que Dieu a placée en l'être humain et en chaque chrétien. Hein, il nous appelle à manifester sa personne. Pour cela, nous devons nous-mêmes, eh bien, poursuivre l'exemple de Christ. On a eu l'occasion, à travers diverses prédications dans le passé, hein, d'être encouragés à être des imitateurs de Christ et de voir les différents aspects et caractéristiques de la personne de Christ et de poursuivre ces choses dans notre vie. Quand on a des enfants, hein, on a toujours ce délicat passage où les gens vont dire, ah tiens, il a les yeux de maman, ou il a le nez de papa, hein, ou il a les cheveux, hein, du grand-père. S'il a les cheveux gris déjà à la naissance, c'est mal barré. Mais on cherche à trouver ces ressemblances, n'est-ce pas? Et même plus tard, quand l'enfant grandit et se développe, on va constater pas simplement des ressemblances physiques, mais également des ressemblances dans les attitudes, dans les manières de faire, la manière de parler. Et je vais vous dire une chose, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, immanquablement, lorsque je vois mes enfants agir, je dis, oh, non, ça c'est moi et ça c'était pas une bonne chose. Et d'autres fois, je veux dire, ah, là c'est des bonnes choses, mais je veux dire, ça c'est Damaris. Mais un enfant, quand il est petit, et c'est une chose qui est vraiment remarquable, il regarde à ses parents. C'est leur modèle, c'est leur exemple. Et il va adopter, il va imiter ce qu'il voit, n'est-ce pas? Et comme je disais, oui, ça fait peur parce que c'est quelque part une crainte qui peut être bénéfique si nous saisissons l'occasion, eh bien, de corriger déjà dans notre vie ce qui ne va pas pour que nos enfants ne répètent pas cela. Mais nous avons donc cet appel qui est donné à être à l'image de Christ, on a déjà lu ce passage de Matthieu 5, d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Il nous est également commandé d'aimer comme Dieu aime, n'est-ce pas? D'aimer comme Christ. Nous sommes appelés à être saints dans toute notre conduite parce que Dieu est saint. Dans ce passage également de Matthieu 5, où on avait lu le verset 48, laisse-moi juste relire les versets 44 et 45 à Matthieu 5, où il parle justement de l'amour, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais notez bien le verset 45 là, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et donc, les commandements que Dieu nous demande d'avoir et de suivre et d'obéir et de pratiquer, l'objectif, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Et que les gens autour de nous puissent voir cela en nous, qu'ils puissent voir même nos œuvres et même glorifier le Seigneur pour ses œuvres. Et l'exemple du Père que nous avons dans les Écritures, on a parlé de la perfection, de la sainteté, de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, mais combien de passages nous lisons au sujet de Dieu en tant que bon père, où il manifeste sa compassion, il va aussi corriger quand ça ne va pas, il va protéger, mais il va aussi apaiser, n'est-ce pas? Il va également réconforter ses enfants. On a eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps de ça, de parler, hein, du Dieu du consolation, hein, de voir que chaque personne en Dieu est notre consolateur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de bénéficier du ministère ainsi des trois personnes de Dieu pour nous consoler. Alors oui, notre exemple que nous devons suivre, le modèle qui est devant nous, c'est un modèle qui est parfait, n'est-ce pas? Je crois que si nous voudrions par exemple, reproduire quelque chose dans notre vie. Ainsi, si par exemple, vous étiez un sculpteur et qu'on vous demande, un client vienne vous dire, je veux que vous produisiez telle statue pour moi. Et je veux que cette statue, elle soit vraiment parfaite, hein, elle soit magnifique et que y ait aucune faute dessus. Mais je veux que vous reproduisiez, on va dire, je sais pas, un aigle. OK? Quelle est la première chose que le sculpteur va faire? La première chose qu'il va faire, c'est d'aller observer un aigle, un vrai. Il va pas aller chercher la reproduction que quelqu'un a déjà fait d'un aigle. Il va pas aller chercher l'œuvre de quelqu'un d'autre. Il va aller à la source pour pouvoir modeler sa sculpture de la meilleure façon possible. Pour nous en tant que père, et pour chacun de nous en tant que chrétien, nous avons ce modèle à travers les Écritures en Dieu. Et si je devais juste prendre un aspect de Dieu, eh bien, la sculpture ne serait pas parfaite, n'est-ce pas? Ou si je dépendais seulement de ce que, ah tiens, j'ai entendu dire au sujet de Dieu quelque part comme ça, qu'il est ceci. Là aussi, le résultat serait déjà bien imparfait. On ne va pas avoir la perfection au cours de notre vie, mais on peut s'éloigner le plus possible de l'imperfection et se diriger le plus possible vers la perfection en prenant le bon modèle. Et s'il y a une chose que j'ai compris aussi dans ma vie, même dans ma relation avec mon père, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder à lui et commencer à regarder au bon Père Céleste. L'être humain, il peut essayer, au cours de sa vie, d'imiter tous ses principes, hein, concernant le rôle, hein, de père dans le foyer, hein, et d'essayer de faire les choses, on va dire, correctement. Il y a beaucoup de pères non chrétiens qui font de bonnes choses, qui ont de bons rapports avec leurs enfants. Mais la parole nous montre qu'il y a un élément essentiel qui est nécessaire, qu'on ne peut pas négliger, c'est de faire les choses selon le Seigneur. On peut avoir même une certaine apparence de piété. Mais comme le dit Pierre, hein, si on renie ce qui en fait la force, si on n'a pas pris la source, si on n'a pas pris la puissance qui nous est accordée pour être les pères que nous sommes supposés être, et si nous cherchons à faire les choses par nos propres forces ou avoir simplement cette apparence de piété, eh bien, ces efforts-là, finalement, seront vains. Ils seront vains parce qu'on aura négligé le plus important. C'est que dans notre rôle de père, on a cette responsabilité de montrer à nos enfants qui est Dieu. Et de leur montrer qu'en lui seul se trouve la vie. Qu'en lui seul se trouve tout ce dont nous avons besoin. Un père qui agit sans prendre Dieu comme exemple, un père qui va agir simplement par ses propres pensées, ses propres raisonnements et par ses propres forces, aura travaillé en vain au cours de sa vie. Parce que l'objectif pour nos enfants, ce n'est pas la réussite sociale. C'est pas, je dirais même, d'avoir réussi à les élever pour qu'ils aient de bonnes manières, même si ces choses sont importantes. C'est pas la réussite académique non plus. Pas la réussite professionnelle. L'objectif le plus important que nous avons en tant que père, c'est de leur montrer qui est Dieu. Et de les mener vers Dieu. Et de les encourager à vivre pour lui. Parce que si on fait les choses ainsi, sans le Seigneur, eh bien, c'est en vain. Le psalmiste, Salomon, hein, dans le psaume 127, il dit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire que si on n'a pas ce fondement-là, si on ne remet pas même à l'Éternel, eh bien, la direction, si vous voulez, du chantier, on travaille en vain. Hein, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, et ainsi de suite. Mais l'idée, ici dans le verset, c'est que si on ne se fonde pas sur Dieu, si on ne laisse pas lui bâtir, et nous simplement, elle va où la brique? Elle va là? Ok, je la mets là. Si on ne fait pas ça, on travaille en vain. Imaginez que vous vouliez faire construire une maison et que vous embauchiez quelqu'un pour construire la maison, mais que les ouvriers ne suivent pas du tout les plans dessinés par l'architecte. J'ai lu un article récemment au sujet d'une famille qui a fait construire sa maison et parce qu'elle dépassait de 6 cm, hein, il y avait 6 cm seulement. Hein, ils ont des problèmes avec la justice, hein, par rapport à leur construction. Il y a plein de situations comme ça où, parce que ça n'a pas suivi le plan, où les plans même du cadastre n'étaient pas bien établis et des gens ont construit une maison sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Des choses aussi absurdes, hein, mais parce que quelqu'un n'a pas vérifié, n'a pas regardé le plan. Tout a été fait en vain. Si nous n'avons pas cet objectif-là en tant que parents, en tant que pères, de diriger nos enfants vers le Seigneur par notre exemple, on travaille en vain. On cite souvent ce verset en Marc chapitre 8 et verset 36, hein, pour ceux qui sont focalisés sur les choses matérielles, sur la réussite, etc. Mais je crois que c'est aussi un rappel pour nous en tant que pères de est-ce que nous sommes tout en train de faire pour que nos enfants ne soient pas en train de chercher à gagner le monde alors qu'ils sont en train de perdre leur âme. Et en reniant donc ce qui en fait la force, ce qui fait la force de ces principes bibliques, on finit par poursuivre les mauvais objectifs, d'agir de la mauvaise manière, et on n'aura pas transmis ce qu'il y a de plus précieux, la foi dans le Seigneur. Alors, oui, Dieu, il est notre Père, il est notre modèle, le modèle par excellence, le modèle parfait pour nous. Hein, il est celui qui a conçu, hein, la famille, qui a donné les instructions précises à chacun dans ses rôles, et que ce soit dans l'ancienne alliance, tout comme dans la nouvelle alliance, on voit que nous avons des rôles, nous avons des responsabilités. Et ces responsabilités, elles peuvent faire peur, c'est vrai. Mais il n'empêche que ces responsabilités-là nous sont données du Seigneur. Donc la deuxième chose que nous devons réaliser, après avoir pris vraiment Dieu comme modèle pour notre vie et comme fondement pour notre foyer, c'est vraiment de prendre nos responsabilités dans la paternité que nous avons. Prendre nos responsabilités en tant que père, surtout dans un monde qui est dénaturé de saintes valeurs morales, ça fait peur. Il y a du boulot, n'est-ce pas? C'est énorme la tâche qui nous est confiée. Parce que nous avons un rôle envers nos enfants de montrer ce qu'est l'amour d'un père, de montrer ce qu'est la vie dans la sainteté, de montrer à nos enfants ce qu'est la relation avec le Seigneur et le modèle que nous avons dans la parole de Dieu, de la famille, de la relation de couple, des relations familiales. On a tous ces enseignements-là, mais dans le monde, tout cela, ça a été parodié, ça a été falsifié, ça a été usurpé, abandonné, même dénigré aujourd'hui. Et nous faisons face certainement à une des batailles les plus dures, spirituellement parlant. Nous faisons face à une gigantesque muraille. Mais ça ne doit pas nous abattre. On ne doit pas avoir la même réaction que le peuple d'Israël lorsque le géant Goliath était là en train de les dénigrer et se moquer de Dieu et se moquer de son peuple, et ils étaient tous dans la crainte et ils ne savaient plus quoi faire. Non. On doit Prendre l'exemple du jeune David, placer notre confiance dans le Seigneur et être plus que jamais décidé à persévérer dans ce rôle qui nous est confié, dans ces responsabilités qui nous sont confiées. Alors oui, on voit dans les Écritures, et je posais la question encore ce matin à mon épouse. Je lui demandais, donne-moi un exemple dans les Écritures d'un père qui a vraiment tout bien fait. Et alors on cherchait. Et on cherchait. On se dit, ah ben lui, il a fait ça. Mais après, oui, de l'autre côté, il a fait ça quand même encore. Hein? On a des exemples ainsi qui nous montrent que oui, nous sommes des êtres imparfaits, mais que nous sommes aussi capables d'accomplir les choses que le Seigneur nous demande. Il n'y a pas énormément d'exemples de personnes qui ont vraiment bien réussi dans leur rôle. Hein, si vous-même vous regardez, vous analysez un peu l'histoire des différents rois, hein, de Juda même, on a des successions parfois, hein, d'un bon roi, un bon père, un homme de Dieu, et puis le fils qui fait n'importe quoi. Hein, et on a un cycle comme ça presque. Mais encore une fois, le modèle que nous avons, c'est Dieu. Et cette muraille qui est en face de nous, même malgré notre imperfection, ne doit pas nous faire décourager face à cette situation-là, mais nous confier davantage en Dieu. Hein, l'exemple de David face à Goliath, la force de David, c'était quoi? Est-ce que c'était sa témérité, son courage? Non. Sa force à lui, c'est l'Éternel est puissant, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'attitude que nous devons développer en tant que père, c'est nous rappeler l'Éternel est puissant. Oui, il y a ces responsabilités-là, il me les a confiées, elles me paraissent impossibles, il me demande d'être parfait dans ces domaines-là, je sais que je suis imparfait, mais je bénéficie de son aide, je bénéficie de sa puissance. Et donc nous avons cette responsabilité, effectivement, d'entourer ce foyer, déjà de le fonder sur l'Éternel, mais quelque part aussi de l'entourer par l'Éternel, n'est-ce pas? C'est en Dieu que notre foyer doit être établi, déjà par un mariage qui unit un homme et une femme qui appartiennent au Seigneur, qui ont ce désir commun, eh bien, d'honorer Dieu par leur mariage, par leur famille, hein, et par l'enseignement qu'ils donnent à ce sujet-là. Je crois que c'est quelque chose qui est clairement établi dans les passages comme 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18 par Paul, quand il dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Il n'y a pas de possibilité de ce rapport-là, de cette union-là. Hein, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et seront mon peuple. Et quand nous avons une chrétienne, un chrétien qui décide de s'unir avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, Paul nous dit quoi? Vous êtes en train de vous fourvoyer. Vous n'avez pas à vous associer, à vous unir avec des personnes ainsi. Hein, et il nous appelle justement à nous séparer de cela. Sortez du milieu d'eux, n'est-ce pas? Ne touchez pas à ce qui est impur. Dieu veut pour chaque chrétien déjà que ce foyer, eh bien, soit bâti selon ses règles à lui. Deux personnes qui connaissent le Seigneur, qui aiment le Seigneur. Parce que justement, en s'unissant, ils deviennent une seule chair. Et je ne sais pas si on saisit vraiment l'image qui nous est donnée ici. Imaginez le temple à Jérusalem et on y apporte une multitude d'idoles à adorer également. Quand un chrétien ou une chrétienne s'unissent à des personnes qui ne sont pas sauvées, c'est l'image-là qui se crée. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps appartient au Seigneur. Et il ne veut pas que nous mélangions cela avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc le point de départ, oui, forcément, un mariage fondé en Christ, avec ce désir de vivre pour le Seigneur, d'imiter le Seigneur, de le servir, et donc un foyer qui soit fondé et entouré par l'Éternel. Transmettre la foi dans notre foyer est également de notre responsabilité en tant que père. La foi, vous le savez, ne se transmet pas du simple fait qu'un enfant soit né au sein d'une famille chrétienne, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens, sont nés de nouveau, connaissent le Seigneur, que les enfants sont sauvés et appartiennent au Seigneur. Ils ont eux-mêmes leur propre responsabilité devant Dieu de saisir cette grâce et de choisir de vivre pour le Seigneur. Je ne peux pas sauver mes enfants. Je ne peux pas demander la grâce de Dieu pour eux. Mais je peux leur montrer ce que la grâce de Dieu a accompli dans ma vie. Et en parler, n'est-ce pas? Dieu attend de nous que nous ayons un foyer dont le témoignage, quelque part, brille de mille feux, si vous voulez. Et le cœur de ce foyer, ça va être nous, là, les papas. C'est à nous d'être au centre de quelque part de ce foyer, de le raviver, de l'allumer, hein, et de le faire briller. Parce que nous serons en train de suivre l'exemple de Christ. Mais bien plus que l'idée même de transmettre la foi, j'ai toujours un peu de souci avec ce mot transmettre, hein, mais avant de pouvoir faire cela, je crois qu'il faut déjà susciter la foi, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pouvons susciter la foi dans la vie de nos enfants? Comment est-ce que nous pouvons susciter chez eux le désir de vivre pour le Seigneur? Vers la fin de sa vie, avant que Israël n'entre dans la terre promise, Moïse donna encore des instructions au peuple d'Israël. Et on retrouve dans Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 9, des instructions très précises pour les parents. Et je crois que pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est quelque chose que nous devons considérer avec la plus grande importance. Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit: Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Susciter la foi. Alors bien sûr, on se focalise tous déjà, hein, sur le « tu inculqueras ces choses à tes enfants », n'est-ce pas? Ah oui, il faut les éduquer, il faut les éduquer. Mais je crois que comme vous, comme moi, vous avez noté qu'il y a des prérogatives pour nous, en tant que père, en tant que parent. Tu, il s'adresse à nous, à moi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements seront dans ton cœur. C'est déjà par cette relation personnel, intime, étroite avec le Seigneur, avoir un amour sincère pour lui, que nous allons pouvoir commencer à inculquer ces choses à nos enfants. Mais oui, il y a cette instruction qui nous est demandée de donner à nos enfants, d'inculquer à nos enfants, peu importe où nous nous trouvons, hein, que ce soit à la maison, en voyage, hein, n'importe quel moment de la journée. Nous devrions saisir les occasions de parler du Seigneur. Nous avons commencé par nous-mêmes. Et le point de départ pour nous-mêmes, bah comme il dit, écoute Israël, c'est écoute, écoute Jérémie, écoute Philippe, écoute Manuel, écoute. Notre point de départ, c'est la parole de Dieu. Et sur la base de cette parole, nous pouvons alors développer cet amour sincère pour le Seigneur. Cet amour sincère pour le Seigneur nous amènera donc à vivre pour lui, à suivre ses commandements, mais c'est les choses qui vont se voir également autour de nous. C'est une chose que de connaître les principes de la parole de Dieu, c'est une autre que de les mettre en pratique, n'est-ce pas? Bien trop souvent, je pense que nous lisons les choses. Ah oui, ça c'est une bonne chose, c'est bien. Mais nous ne cherchons pas à les mettre en pratique. Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 19, Dieu dit, Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Parce que de dire les choses, c'est important. Mais si nous disons les choses et que de l'autre côté, nous n'appliquons pas nous-mêmes, nous ne montrons pas l'exemple par la pratique, ça ne sert à rien. On le sait que quand on enseigne les enfants, l'aspect concret, visuel, est important. On va utiliser des images. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, il employait les images pour enseigner, hein, à travers les paraboles. Il employait de nombreuses images pour enseigner les vérités spirituelles. Mais imaginez seulement un prof de maths qui passe des heures et des heures à enseigner les théorèmes, à en expliquer leur utilité. Tant qu'il n'aura pas montré lui-même comment faire, ça ne va pas aider les élèves. On peut écouter, 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 écouter. L'élève, il ne saura pas comment mettre en pratique, n'est-ce pas? Tant qu'il n'aura pas montré lui-même, tant qu'il n'aura pas aidé l'élève en l'encadrant dans ses tentatives à résoudre un exercice, en corrigeant même les erreurs, en l'encourageant dans la marche à suivre, l'élève ne va pas retenir la leçon. On sait que c'est dans la pratique des choses qu'on retient les leçons, n'est-ce pas? Nous aurons beau dire à nos enfants ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, si nous-mêmes nous ne montrons pas l'exemple, ça ne sert à rien. Et je sais que pertinemment, moi-même, au cours de ma vie, il y a eu de multiples situations où je n'ai pas montré le bon exemple. Et lorsque nous réalisons cela, il est important pour nous déjà de nous corriger nous-mêmes et de laisser le Seigneur changer cela dans notre vie pour que nous puissions être le bon exemple envers nos enfants. Dans ces passages où il est question d'honorer les parents, il y a ce fameux verset pour les pères, et beaucoup, même aujourd'hui, vont prêcher sur ce passage-là, Père, n'irritez pas les enfants. Moi, je me suis toujours gratté la tête en me demandant comment ce n'est pas le contraire. Enfants, n'irritez pas votre papa. Mais la réalité des choses, c'est qu'on ne cherche pas à irriter volontairement nos enfants. Mais qu'est-ce qui va les irriter? Le fait qu'on leur dise de ranger la chambre alors qu'ils doivent ranger leur chambre? Ça, c'est leur problème, n'est-ce pas? On est tout à fait en droit, en tant que parents, de dire à nos enfants de ranger leur chambre. Mais si on dit à nos enfants, ne faites pas ceci, mais que nous, de notre côté, on le fait, que devenons-nous à leurs yeux? Des hypocrites. Et je crois que c'est ça surtout, c'est l'hypocrisie qui irrite le plus un enfant. Alors pour éviter pour nous, pères, d'être dans cette hypocrisie, eh bien, ça requiert que, oui, effectivement, nous mettions en pratique nous-mêmes ces choses. Jacques chapitre 1er, verset 22, vous connaissez bien ce verset. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, n'est-ce pas? C'est si facile de savoir les choses, de proclamer les choses et de négliger de les mettre en pratique. Oh Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent, nous rappelle Paul. Et c'est pour ça que nos efforts, nous devons constamment les accompagner d'une foi sincère et véritable, accompagnée de vertus, de connaissances, de maîtrise de soi, de patience, de piété, d'amitié fraternelle et d'amour, comme nous le rappelle Pierre dans sa seconde épître, n'est-ce pas? Je l'ai dit de nombreuses fois. Je n'ai pas agi comme je devais l'agir. Et de nombreuses fois, j'ai dû demander pardon à mon épouse ou même à mes enfants. Et je sais, je suis conscient que Oui, mon témoignage n'est pas parfait et que il y a des choses qui n'étaient vraiment pas en règle avec le Seigneur. Mais ce que je veux aussi montrer à mes enfants, c'est que je ne veux pas rester cette personne-là. Et que je vais faire les efforts pour corriger, pour m'approcher toujours plus de l'exemple de Dieu et de leur montrer, arrêtez de regarder à moi maintenant, mais regardez au Seigneur. Une dernière chose, avant de conclure, il nous reste juste quelques minutes, mais c'est tout aussi important parce que c'est vrai que souvent dans les prédications qu'on apporte à la fête des pères, hein, c'est toujours hein, vos responsabilités, 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 là, hein, et puis on en prend tous les côtés. Mais déjà, sachez que quand on prépare de telles prédications, moi je suis le premier à m'en prendre dans la figure. Hein. Mais un aspect qu'il ne faut pas négliger surtout, et je crois que ça c'est la partie aussi encourageante pour nous, c'est que avec ce modèle parfait par excellence que nous avons en Dieu notre Père, avec les responsabilités qu'il nous a confiées, des responsabilités très grandes et dans un monde très difficile, Dieu donne aussi des bénédictions et des récompenses que nous pouvons attendre en tant que Père. Le psaume 127 que nous avons lu il y a quelques instants nous dit également au verset 3, Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Il y a cette bénédiction d'avoir des enfants. Et c'est quelque chose que tant qu'on n'est pas devenu parent, on ne comprend pas la force de cette bénédiction-là. Mais c'est une énorme bénédiction, déjà juste d'avoir un enfant. Mais quand nous avons des enfants, que malgré notre imperfection, nous avons pu diriger vers le Seigneur, et que ces enfants, eh bien, suivent cet exemple-là, non plus le mien, mais celui du Seigneur, il n'y a pas de plus grande joie. C'est ainsi que l'apôtre Jean voyait aussi son rapport avec les frères et sœurs dans l'Église. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est une énorme bénédiction lorsque nous voyons cela se produire dans notre vie et dans la vie de nos enfants. Je sais que notre ami Philippe, il aime bien aussi parfois souligner des vérités en soulignant l'inverse aussi de cette vérité. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande tristesse que de savoir et d'apprendre que les enfants ne marchent pas dans la vérité. Mais quand nous nous sommes efforcés de suivre l'exemple de Dieu et que nous avons réussi à susciter la foi dans la vie de nos enfants, il n'y a pas de plus grande joie. Il y a un élément qui est aussi essentiel à nous rappeler. Même en tant que parent, si on a fait tous les efforts et on sait qu'on a eu des manquements, on a fait des erreurs, etc. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas oublier non plus, c'est que nos enfants décident pour eux-mêmes de leur relation avec le Seigneur. Comme j'ai dit, je ne peux pas les forcer à croire, mais je peux leur montrer l'exemple de pourquoi je crois et de pourquoi je fais mes efforts, même si je suis imparfait. Et donc, pour être digne d'honneur, oui, il y a du travail, hein, il faut le mériter. Mais on voit qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Hein, je remercie le Seigneur pour l'exemple de mon père. Hein, comme j'ai dit, est-ce qu'il a tout fait dans la perfection? Non. Hein, une des choses hein, qui m'avait aussi beaucoup aidé, c'était aussi de reconnaître le fait qu'il était le premier dans sa famille à venir au Seigneur. Il a eu un exemple qui n'était pas un mauvais exemple dans mon grand-père, mais ce n'est pas sur cet exemple-là qu'il a décidé de bâtir son foyer. C'était sur l'exemple de Christ. Et s'il y a une chose que je reconnais en lui, c'est bien le fait qu'il a toujours voulu faire les choses qui honorent Dieu. Les bénéfices, et c'est ça aussi qu'il faut nous rappeler. Parce qu'on pourrait vite tomber un peu dans une perspective un peu égoïste en se disant, oui, il y a des bénédictions pour moi en tant que père, hein, d'avoir des fils, d'avoir des enfants qui marchent avec le Seigneur, et de savoir que voilà, ils vont aussi peut-être prendre soin de nous, etc. Mais au-delà de cela, ce qui doit nous encourager, ce sont les bénéfices pour nos enfants. Parce qu'un père qui craint Dieu, un homme intègre, sera pour ses enfants une source de grande bénédiction. Le psaume 112, versets 1 et 2 nous dit: Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Elle sera bénie. Et c'est une chose que nous voyons et que nous pouvons même constater, hein, dans la vie de familles qui sont au Seigneur depuis plusieurs générations même, de voir que quand les enfants marchent pour le Seigneur, eh bien, il y a ces bénédictions qui viennent. J'avais lu un article également sur cet ancien prédicateur Jonathan Edwards, qui, dans sa descendance, il a eu plusieurs petits-enfants, arrière-enfants, petits-enfants, etc., qui ont été des pasteurs, des prédicateurs, etc. Et même l'un d'entre eux a fini par être vice-président des États-Unis. Alors, je veux dire, bon, ça, c'est quand même bon, le grand exemple est extraordinaire. Mais ce sont ces choses-là aussi qui doivent nous encourager à continuer à persévérer dans notre rôle de père chrétien. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Et on retrouve plusieurs versets ainsi dans les psaumes, hein, le psaume 103, versets 17 à 18: La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Donc, en reconnaissant qu'il y a des bénédictions pour nous, mais encore bien plus que cela, qu'il y a des bénédictions pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça doit nous encourager à continuer de suivre le modèle donné par le Seigneur, de prendre nos responsabilités et d'être des pères finalement honorables aux yeux de nos enfants. Ah oui, c'est vrai, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y en a pour ceux qui, tristement, n'ont pas les raisons d'honorer leur père. Regardez au Seigneur. Il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs. N'est-ce pas? Que sommes-nous sans la grâce de Dieu? Que sommes-nous sans l'influence de sa parole, de l'Esprit-Saint? Que sommes-nous? Mais nous avons en Dieu le Père un exemple qui est parfait, un bon Père qui prend soin de nous et qui nous appelle donc à honorer nos parents, à ne pas les mépriser. Nous devons être encouragés même à prier pour eux, à prier pour avoir plus d'amour, de miséricorde et de compassion, hein, celle que le Seigneur nous a montrée et manifestée, plutôt que de mépriser. Regardez au Père et regardez à vous-même. Et on verra que finalement, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs et que je n'ai aucun mérite pour la personne que je suis aujourd'hui. Si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai pris des décisions. Je veux faire ça parce que le Seigneur me le demande. Et je vais accomplir cela. Et je vais changer cela. Et je vais abandonner cela. Mais le mérite, il en revient qu'à Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, n'est-ce pas? C'est la conclusion à laquelle Paul est venu. Sans Christ, je ne suis rien. Car Christ et ma vie, n'est-ce pas? Christ est ma vie. Et quand nous avons, en tant que père, effectivement, cette détermination de suivre Christ, eh bien, on va pouvoir, effectivement, suivre le modèle être une bénédiction et un exemple pour nos enfants. Mais la source, c'est toujours Dieu, à travers Christ, qui nous permet d'accomplir ces choses-là. Alors comment pouvons-nous être un père honorable? Ben, dans l'humilité, c'est de reconnaître qu'à la base, je ne suis pas honorable. Et que ce qu'il y a d'honorable en moi, c'est par la grâce de Dieu seul, par l'œuvre de Jésus-Christ seul. Mais si je ne laisse pas agir dans ma vie, si je ne suis pas les commandements, si je n'aime pas le Seigneur de tout mon être, de tout mon cœur, de toute ma force, si je ne m'efforce pas de suivre ses commandements, tout le reste sera en vain. Donc j'espère que voilà, ces paroles ont pu encourager chacun d'entre nous, pour nous qui sommes papa, pour les autres aussi, de prier, de voir aussi l'importance de leur rôle, de leur responsabilité, de la charge qui leur incombe, de prier pour eux, hein, de les encourager également dans cette responsabilité que Dieu leur a confiée. Et j'espère que tout ceci, hein, nous aura encouragés à honorer nos papas. Prions. Père, nous te rendons grâce ce matin parce que ce n'est que par toi et par toi seul que déjà nous pouvons nous approcher de toi et t'appeler Père. Nous ne méritions rien si ce n'est le châtiment que tu as prévu, Seigneur. Nous ne méritions rien de ton amour, de ta grâce, de ton aide, Seigneur. Nous ne méritions rien du tout. Et nous voulons donc te glorifier parce que toutes ces choses qui sont bonnes dans notre vie nous viennent de toi. Mais nous reconnaissons aussi que, eh bien, toutes ces imperfections, c'est le résultat aussi de nos décisions qui sont faites selon la chair, qui sont faites parce que nous sommes des êtres pécheurs. Mais Seigneur, nous voulons surtout nous confier en toi pour que tu nous fortifies, pour que tu nous encourages, pour que tu nous consoles aussi, parfois dans les situations difficiles, dans les relations avec la famille. Mais Seigneur, que vraiment tu sois le fondement et le centre, et que tu nous entoures, Seigneur, dans notre foyer, que tu nous aides à accomplir nos tâches, nos responsabilités, Seigneur, de la meilleure façon possible, et que nous puissions avoir cette même joie un jour de voir nos enfants marcher dans la vérité. Merci Seigneur pour ce jour où nous pouvons le prendre à part pour honorer nos parents, mais n'importe quel jour, Seigneur, nous devons continuer de les honorer et de t'honorer toi à travers cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen.